Bon matin, nouvelle vie. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Yes! Très heureux d'être avec vous, avec une salle bondée de monde. Et honnêtement, l'annonce, je pense qu'il y a pas eu assez d'applaudissements. 650 la semaine passée, c'est extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'église Nouvelle Vie La Prairie, c'est un site qui a démarré il y a quelques années. Puis c'est fou de voir l'évolution de ce que Dieu fait. Et combien savent que c'est juste le commencement? C'est juste le commencement de ce que Dieu va faire. On a hâte de voir ce qui s'en vient pour la suite. Et ce matin, c'est mon plaisir pour moi d'apporter une parole que j'ai fort sur mon cœur depuis quelques temps déjà. Et je ne vais pas passer par quatre chemins. J'aimerais d'ores et déjà vous donner le titre de mon message qui est « Deux attitudes qui te gâchent la vie ». Si je posais la question à chacun d'entre vous dans cette salle, à main levée, qui a envie d'être frustré toute sa vie, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées. J'espère en tout cas. Si c'est le cas, viens me voir à la fin de la réunion, on va discuter. Mais réellement, il n'y a personne qui va être frustré toute sa vie. Ce qui veut dire que le message que j'ai sur mon cœur ce matin, il est pour tout le monde. Et justement pour ça, on va regarder à une parabole racontée par Jésus. Vous savez, Jésus, c'est le plus grand enseignant de l'histoire de l'humanité. À chaque fois qu'il prenait la parole, qu'il faisait des discours, qu'il enseignait, c'était littéralement des foules qui venaient l'écouter, des foules qui venaient entendre ce qu'il avait à dire. Et un des types d'enseignements privilégiés par Jésus, c'était les paraboles, les histoires. Parce que bien avant Netflix et Hollywood, Jésus savait que ce qui captivait l'attention, c'était les histoires. Et à un moment donné, il est avec ses disciples, il parle, il discute avec eux, et il leur explique, il leur raconte à quel point c'est important de faire partie de la famille de Dieu, comment il donne les conditions pour avoir accès au royaume de Dieu. Et là, les disciples se regardent les uns les autres, ils commencent à se comparer, puis à se dire, ok, moi j'ai abandonné telle chose pour suivre Jésus, j'ai vraiment fait des sacrifices pour suivre Dieu, ça doit compter pour quelque chose, c'est sûr je vais faire partie de la famille de Dieu, je vais avoir une récompense au ciel. Puis pose la question à Dieu. Il leur dit, ok, quelle va être notre récompense? Est-ce qu'on va avoir des places réservées pour toi? Puis là, Jésus leur répond directement. Il leur dit, oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir des places réservées, mais, et il rajoute un mais, et là, il donne une phrase qui est connue de tous, tellement connue que certains ne savent même pas qu'elle vient de la parole de Dieu, qu'elle vient de Jésus. Cette fameuse phrase qui dit, mais plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Maintenant, moi, ayant grandi dans une famille chrétienne et une famille de sportifs, cette phrase-là, elle a été utilisée à toutes les sauces. Réellement, moi, j'étais un joueur de soccer, puis ça m'arrivait de perdre des matchs de soccer, des tournois, tout ça. Puis mon père, il croyait nous remonter le moral, homme de Dieu, Bible à la main, il disait « T'inquiète pas, fiston, les derniers seront les premiers ». Laissez-moi vous dire que Jésus, déjà, ça remontait pas du tout le moral. Et Jésus ne parle pas du tout de sport. Il parle pas du tout de sport dans cette parabole-là. Et en fait, pour expliquer c'est quoi la signification de cette phrase-là, il va donner une histoire. Il va nous raconter une histoire que je vous lis maintenant. Voici, en effet, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. À l'époque, si tu n'avais pas de travail, une des opportunités pour toi d'avoir un travail puis d'avoir un salaire à la fin de la journée, c'était d'aller sur une place dans l'espoir qu'un entrepreneur vienne t'embaucher pour la journée. Donc là, ils vont sur cette place-là et ils se font embaucher. Et là, il y a quelqu'un qui l'embauche pour la journée, il leur dit qu'il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans sa vigne. Donc il leur dit, venez travailler avec moi pour la journée et le salaire, ça va être une pièce d'argent. Ils sont contents, let's go, une pièce d'argent, on y va. Sauf que vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3h de l'après-midi. Et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux, « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ? Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ?» Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Cette parabole parle de comment l'évangile fonctionne. Que tu choisisses de placer ta confiance et de donner ta vie à Jésus à 18 ans ou à 58 ans, de la même manière tu vas être sauvé. Dans la même manière tu as accès à l'éternité. Malgré, même si tu as été loin de Dieu pendant toute ta vie, si tu te tournes vers lui, tu demandes pardon, tu le reconnais que tu as besoin de lui, tu places ta confiance en lui de la même manière que celui qui s'est abandonné à Jésus dans ses jeunes années, de la même manière tu vas être sauvé. Ça, c'est le message de l'évangile. Mais ce que cette parabole nous enseigne, c'est que certains de ceux qui auront donné leur vie à Jésus dans les dernières heures seront considérés comme les premiers et que certains de ceux qui auront servi Dieu pendant toute leur vie seront considérés comme les derniers à cause de leur attitude. Et c'est sur ces attitudes-là que j'aimerais m'attarder aujourd'hui parce que ces attitudes sont responsables de la plus grande, de la grande majorité de nos frustrations dans la vie. Et la première d'entre elles que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le manque de reconnaissance. Lorsqu'on regarde à la parabole de Jésus, les ouvriers qui se font embaucher, ils finissent frustrés. Alors que tout ce qu'ils ont dans cette parabole-là, dans cette histoire-là, c'est de la grâce. Tout ce qu'ils ont, c'est du bonus. Ils ont la grâce, le privilège d'être choisis pour travailler alors que rien n'obligeait l'employeur à les choisir. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre et les laisser errer pour la journée, ne pas avoir de salaire. Mais il choisit de leur donner. Et au lieu d'être reconnaissants, ils sont frustrés. Et lorsqu'on fait le lien entre cette parabole-là et nos propres vies à nous, bien souvent on peut se rendre compte qu'on ressemble un peu à ces ouvriers qui peuvent être ingrats. Parce que dans cette histoire, l'appel des ouvriers à venir travailler dans la vigne représente l'appel que Dieu nous a lancé à venir faire partie de sa famille. Que malgré nos erreurs, malgré nos fautes, il est venu prendre sur lui la culpabilité de nos fautes à la croix et nous dit hey, « viens faire partie de ma famille ». Le travail accompli par les ouvriers heure après heure représente tout le service, toutes les choses qu'on peut faire pour Dieu. Nos implications, nos ministères, les pas d'obéissance, de sacrifice, tout ce qu'on fait pour Dieu, ça c'est représenté par le travail des ouvriers. Et enfin, la pièce d'argent qui est la récompense représente la récompense qu'on va avoir lorsqu'on va être au ciel, dans un monde sans souffrance, sans maladie, rempli de joie, d'amour, de fête et de rire. Et c'est un très très bon moment pour dire amen, nouvelle vie. C'est notre espoir qu'un jour on va vivre avec Dieu pour l'éternité dans un monde parfait. Maintenant, la frustration des ouvriers dans cette parabole-là représente toutes les fois où on regarde Dieu en disant « Tu m'as créé, tu m'as pardonné malgré mes erreurs, mes fautes, tu me donnes ton Saint-Esprit, tu me permets d'accomplir des choses pour toi, mais tout ça pour moi, c'est pas assez. » Ça représente toutes les fois où on dit à Dieu « C'est pas assez. » C'est comme « Je mérite plus que ce que tu me donnes. » Toutes les fois où on a l'impression que Dieu est injuste envers nous. Que l'impression que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite un peu plus que ce qu'il nous donne. Est-ce que ça pourrait nous arriver, ça, parfois? Que nous, on regarde à notre obéissance, à tout ce qu'on fait pour Dieu, et on a l'impression qu'on obéit tellement qu'on place Dieu dans une position où il se doit de nous bénir. J'obéis tellement à Dieu, je fais des sacrifices, je donne généreusement ma dîme, je donne des offrandes à Action Nouvelle Vie, je sers, je m'implique, je suis quelqu'un de consacré, je lis ma Bible, je prie, tandis que d'autres chrétiens sont sur Netflix. Moi, je suis dans le jeûne et la prière, je m'implique, je sers. Dieu, tu vois tout ce que je fais pour toi là. J'ai un entretien d'embauche là, on est d'accord, tu vas me le donner parce que j'ai trop fait pour toi. L'impression qu'on obéit tellement que Dieu nous regarde et se dit, mais il obéit trop lui, je suis obligé de le bénir. Et que lorsque les choses ne tournent pas comme on veut, on est frustré. On est frustré contre Dieu. Un peu comme cet homme qui s'appelle Asaph. Asaph, c'était un conducteur de louanges, quelqu'un qui composait des chants magnifiques il y a plusieurs milliers d'années. S'il vivait au 21e siècle, ses chants auraient fait le buzz, ils auraient des millions de vues sur YouTube, ça aurait été une star incroyable, un homme de Dieu. Sauf que Asaph, à un moment donné, il passe par un moment difficile. Asaph, il passe par un moment difficile, par un moment d'épreuve, de difficulté. Et là, il se met à crier à Dieu. Il se met à expliquer sa peine, sa souffrance, sa frustration, sa colère à Dieu avec une authenticité qui, honnêtement, est assez renversante. Il lui dit ceci. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et leur force est en son entier. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi sortent-ils d'arrogance comme on porte un collier. Et la violence est leur parure. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, je subis des coups, je suis châtié chaque matin. Le psalmiste exprime à Dieu des pensées qui bien souvent nous passent par la tête, mais qu'on n'ose pas verbaliser. Il dit, je regarde des gens à droite, à gauche, des gens qui n'en ont rien à faire de toi, des gens méchants, des gens orgueilleux, qui ne croient même pas en Dieu, qui ne donnent pas leur dîme, qui ne vont pas à l'église, et j'ai l'impression que leur vie, elle va bien. Ils ont promotion sur promotion, bénédiction sur bénédiction. Je regarde leur Instagram, j'ai l'impression que c'est la famille parfaite, que leurs enfants, ils se chicanent jamais, que c'est la relation, le couple idéal. Ils sont en santé, ils vont en vacances aux Bahamas, ils ont tout ce qu'ils veulent, alors qu'ils n'en ont rien à faire de toi. Alors que moi, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la pureté, dans les sacrifices, qui marche à contre-courant, qui donne généreusement de mon temps, de mon argent, je suis frappé par la maladie. Je suis frappé par la perte d'emploi. Financièrement, ma situation, elle ne décolle pas. Je vis de la solitude. Ma santé ne va pas bien. Est-ce que c'est en vain? Est-ce que c'est en vain que je suis resté pur? Est-ce que c'est en vain que je me donne autant à toi, Seigneur, que je te sers, que je suis impliqué? Est-ce que c'est en vain que je fais tout ça? L'impression que Dieu est injuste avec nous. L'impression qu'il ne nous donne pas ce qu'on mérite, oubliant que face à Dieu, nous ne méritons rien. En fait, la seule chose qu'on méritait, c'était de passer l'éternité loin de lui. Mais dans sa grâce, malgré qu'on ne mérite rien, il nous a tout donné. L'offensé a pris la place de l'offenseur. Lui, le créateur de l'univers, du ciel et de la terre, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, il a dit, je les aime tellement que je vais venir prendre sur moi la culpabilité de leurs fautes à la croix. Je vais venir prendre leur place. Et comme si ça suffisait pas, il nous offre une relation avec lui. Il te connaît par ton prénom. Il veut avoir une communion, une relation avec toi. Comme si ça suffisait pas, il te donne son Saint-Esprit qui te remplit de paix, d'amour, de joie, malgré les circonstances, malgré les difficultés. Comme si ça suffisait pas, il te donne des dons, des talents qu'il veut utiliser pour faire avancer son royaume dans une cause qui est éternelle, dans une cause qui dépasse. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux jamais voir ma relation avec Dieu comme un moyen d'obtenir quelque chose de plus de sa part, parce qu'il n'y a rien de plus grand que ça. Il n'y a rien de plus grand que ça. Le fait de le servir et de vivre pour lui, c'est un privilège. C'est un privilège incroyable. Dieu nous appelle à réaliser qu'en lui, nous avons tout ce dont on a besoin. En lui, nous avons tout ce dont on a besoin. L'humilité réellement qui nous mène à la reconnaissance, j'aime beaucoup cette citation de C.S. Lewis qui nous dit ceci. L'humilité, ce n'est pas penser mal de soi, mais c'est de penser moins à soi. On connaît tous quelqu'un qui, par exemple, cuisine super bien, on va lui dire « Ouais, toi, tu cuisines vraiment bien », puis la personne, elle va dire « Non, je cuisine pas bien, c'est pas vrai ». Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'humilité déguisée. L'humilité, c'est pas juste se dénigrer, c'est pas juste dire « Ok, je suis pas bon, je suis mauvais ». Non, l'humilité, c'est juste penser moins à soi, de se concentrer beaucoup plus sur ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir pour nous versus ce que nous accomplissons pour Dieu. C'est de remettre les priorités dans le bon ordre, de réaliser que ce qui nous permet de nous approcher de Christ, ce ne sont pas nos mérites à nous, mais c'est les mérites de Christ. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis à chaque fois, j'entendais mon père terminer ses prières en disant « Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que je te prie ». Puis moi, en grandissant, c'est comme si j'ai développé la pensée que ça, c'était juste une formule magique qui te donnait plus de chances d'avoir des réponses favorables à tes prières. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Quand on dit « c'est dans le nom de Jésus que je te prie », ce qu'on dit, c'est littéralement « Seigneur, si je te demande d'intervenir favorablement dans ma vie », c'est pas parce que j'ai lu ma Bible tous les jours, parce que j'ai prié tous les jours, parce que j'ai donné ma dîme, parce que je me suis impliqué. Non. Si je te demande d'intervenir favorablement dans ma vie, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est parce que Christ a accompli ce que moi j'étais incapable d'accomplir. Que lui, il a vécu la vie parfaite que moi j'étais incapable d'accomplir. Et je viens pas en mon nom, pas en mes propres forces, pas dans mes mérites, mais sur les mérites de lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une journée où on peut s'approcher de Dieu comme s'il nous devait quelque chose. J'aime beaucoup cette citation de Jerry Bridge qui dit ceci. « Tes meilleurs jours ne sont jamais assez bons pour que tu n'aies plus besoin de la grâce de Dieu. Et tes pires jours ne sont jamais trop mauvais pour que tu sois hors de portée de la grâce de Dieu. » Il y a Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Peut-être que tu es là ce matin et t'es rentré avec de la culpabilité, de la honte. Peut-être même pendant la louange, tu étais timide. Tu n'osais même pas louer ton Dieu, lever les mains parce que tu dis, mais j'ai pas envie d'être hypocrite. J'ai trop fait de mal, j'ai trop fait d'erreurs. Puis il y a des choses qui pèsent sur tes pensées. J'aimerais te dire que il y a rien qui peut te séparer de son amour. Tu peux pas aller trop loin pour être hors de portée de sa grâce. Et qui que tu sois dans ce lieu, si tu viens aujourd'hui avec un cœur repentant, demandant pardon et dire Seigneur, je veux revenir dans tes voies, il a les bras grands ouverts pour toi. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin? Tu n'es pas hors de portée de la grâce de Dieu. Mais l'autre partie de la phrase nous dit qu'on ne peut jamais trop vivre dans la pureté et dans la sainteté pour arriver face à Dieu et de dire, cette bénédiction-là, tu me la dois. Tu me dois me bénir plus que ceux qui m'entourent. C'est extrêmement important de comprendre ça. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que notre joie en dépend. Parce que tu ne peux pas être reconnaissant pour quelque chose que tu crois mériter. Tu ne peux pas être reconnaissant pour quelque chose que tu crois mériter. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui, lorsque vous êtes payé à la job, que toutes les deux semaines, quand vous recevez le salaire, vous allez dans le bureau de la comptabilité ou votre boss et dire « Merci pour le salaire que tu m'as donné ». C'est comme « Tu m'as donné un salaire, tu étais mieux de me le donner, mon salaire, parce que je travaille. C'est ma job, je le mérite, c'est un contrat légal. » Mais il faut réaliser qu'avec Dieu, tout ce qu'il nous donne, c'est immérité. Tout ce qu'il nous donne, c'est de sa faveur. Tout ce qu'il nous donne, c'est du bonus. Et j'aime beaucoup cette phrase-là parce que notre joie est directement liée à notre reconnaissance. En fait, notre joie est proportionnelle à notre gratitude. Vous connaissez sûrement la phrase qui dit « Ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux. » Tu ne rencontreras jamais quelqu'un qui est heureux mais qui n'est pas reconnaissant. Parce que la réalité, c'est que tu peux toujours trouver des raisons de te plaindre. Mais tu peux également toujours trouver des raisons de te réjouir et de dire « Merci Seigneur pour ta bonté ». La personne qui est heureuse, là, c'est pas une personne qui vit pas de difficultés. C'est une personne qui choisit de regarder à la bonté de Dieu au lieu de ce qui lui manque. Est-ce que je peux entendre « Amen, nouvelle vie » ? Ce qui me fait penser à une histoire moi, je suis allé à l'école biblique, puis un de nos pasteurs enseignants aimait nous raconter cette histoire-là. Qu'un jour, à un moment donné, il a porté la parole. Il a porté la parole à la congrégation un dimanche matin. Et dès qu'il finit son message, la réunion se termine. Puis là, il y a une femme qui arrive vers lui en colère. Et je vais vous faire une confidence. Lorsque tu prêches la parole, que la réunion se termine et qu'il y a une femme qui arrive en colère vers toi, c'est jamais bon signe. Puis là, elle arrive devant lui, puis elle lui dit « Pasteur, je suis en colère », j'avais remarqué. Puis là, elle lui dit « Je suis en colère parce que j'ai l'impression que Dieu, il fait jamais rien pour moi. Que Dieu, il fait juste répondre aux prières de mon entourage, de mes voisines, de mes voisins. Moi, Dieu, il a jamais rien fait pour moi et il fait rien pour moi. » Puis ce pasteur-là, il a un caractère assez trempé, c'est quelqu'un d'assez direct. Puis il l'a regardé avec des grands yeux, il a dit « Quoi ?» Dieu ne fait rien pour toi. Malgré tes erreurs, malgré tes fautes, il t'a pardonné, il a pris ta place sur la croix, il t'offre une relation avec lui, l'éternité. Même si Dieu ne répondait à plus aucune de tes prières, tu aurais encore un milliard de raisons de lui dire merci, d'élever son nom et de chanter sa gloire et sa bonté. C'est ce qu'il lui a dit. Mais la réalité, c'est que Dieu ne s'arrête pas là. Même s'il répondait plus à aucune de nos prières, on aura encore des raisons de lui dire merci, de le louer, mais il continue à répondre. Ces bénédictions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Tout ce qu'on reçoit, c'est de la grâce. Juste le fait qu'on puisse manger 3 repas par jour, qu'on soit dans un pays libre, on peut se rassembler. Combien de chrétiens en ce moment sont sous la persécution et ne peuvent pas faire ce qu'on fait aujourd'hui? De toutes ces bénédictions-là, des fois on arrive à un point où même on se met à râler des bénédictions que Dieu nous a données. On prend tellement les choses pour acquis. Moi, la fois où j'ai réalisé vraiment que j'étais ingrat, c'était à l'adolescence. À l'adolescence, vous savez, moi, je viens d'une famille nombreuse, on est 6 enfants. Et puis, ma mère, elle, c'est le genre de femme qui, lorsqu'elle faisait les courses, elle essayait de faire des courses pour le plus longtemps possible. Et croyez-moi, 8 personnes affamées, je sais, ça se voit pas, mais je mange beaucoup, ok? 6 personnes affamées, ça en faisait des courses. Et ma mère, c'était le genre de personne qui chassait les promotions. Elle essayait toujours d'avoir les bons coups. Ce qui fait que moi, aujourd'hui, en tant que jeune homme, je fais mes courses maxi en 30 minutes, c'est bouclé. Non, ma mère, c'était pas comme ça. Ma mère, elle achetait sa viande à IGA, ses légumes au Super C pour avoir toutes les promotions, tous les meilleurs coups. Ce qui fait que lorsque elle nous choisissait pour aller faire les courses avec elle, c'était des heures. C'était des heures et des heures. Puis nous, à chaque fois, on était terrorisés à l'idée de dire « J'espère que c'est pas moi qu'elle va choisir ». J'espère que c'est pas moi qu'elle va choisir pour aller faire les courses avec elle, parce qu'on savait qu'on en avait pendant des heures une terreur, une angoisse. Puis à un moment donné, devait arriver ce qui est arrivé. Elle me choisit moi. Elle me choisit moi, on fait les courses, puis comme d'habitude, on fait tous les magasins de la ville, puis au bout de 2-3 heures, on revient fatigué. Puis là, on peut croire que c'est fini, mais c'est là où le plus dur commence. Parce que lorsqu'on arrive dans la maison, maintenant il faut ranger les courses. Dans le placard, dans la cuisine. Et là, faut jouer à Tetris. Faut jouer à Tetris de dire, OK, faut trouver de la place, tout ça. Et man, vous savez, moi, j'étais impatient. J'avais qu'une envie, là, c'était de même mettre ça de côté, puis aller retourner jouer à la PlayStation. Là, tous les parents d'ados me connaissent et comprennent un peu. Mais j'étais là et puis j'étais fatigué. J'en ai marre. OK, Tetris, tout ça. Puis là, je regarde le frigo. Je place tout ça. Puis là, j'ai dit une phrase. Vous savez, le genre de phrase, quand tu le dis, tu te rends compte de l'absurdité de ce que tu viens de dire. Et t'as envie de rattraper tes paroles, mais c'est trop tard parce que la parole est déjà sortie. J'arrive, je dis, ça rentre pas. Maman, c'est n'importe quoi. Le frigo, il est trop plein. J'ai râlé parce que le frigo était trop plein. Et quand la phrase est sortie de ma bouche, je fais, mais à quel moment tu peux être aussi ingrat? Il y a des personnes qui pleurent et qui rêveraient d'avoir un frigo rempli. Toi, tu présentes tellement les bénédictions pour acquis que tu te plains que le frigo est trop rempli. Et je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de me juger à juste titre. Je le mérite. Mais combien de fois on le fait où on se plaint des bénédictions que Dieu nous a données? De dire, ah, mon mari, ma femme, en ce moment, elle me tape sur les nerfs, j'en peux plus. Combien de fois t'as prié pour avoir un conjoint, une conjointe? Souviens-toi de ces périodes-là. Pense à toutes les personnes qui rêveraient d'être mariées. Oh, mes enfants, en ce moment, ils me laissent pas dormir, ils font n'importe quoi, j'ai envie de les étrangler. Combien de fois t'as prié pour avoir des enfants? Ma job, en ce moment, j'en peux plus. Ma voiture, elle fait des bruits bizarres, j'en peux plus. T'as une voiture. On est tellement, des fois, centré sur nos besoins, centré sur nous, qu'on oublie à quel point Dieu est bon. Que toutes ces choses-là, elles ne nous sont pas dues. Toutes ces choses-là, c'est des bonus, de la grâce et de la faveur imméritée de Dieu. Et ça, il faut qu'on le réalise. Et bien souvent, j'ai réalisé que ce qui nourrit notre manque de reconnaissance, c'est également la comparaison. La comparaison. Puis c'est ce qui se passe dans notre texte. Dans notre texte, les ouvriers sont hyper contents d'être engagés pour une pièce d'argent au début. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des personnes qui ont travaillé beaucoup moins d'heures que eux et qui sont payées de la même manière. Et là, tout d'un coup, la pièce d'argent, elle est plus suffisante. D'un coup, elle ne suffit plus. J'aimerais te dire un conseil vraiment facile ce matin. Si tu as envie d'être frustré dans ta vie, c'est super simple, compare-toi. Compare ton conjoint, compare ta conjointe, compare ton apparence physique, ton salaire, ta maison, tes enfants. Tu veux être frustré dans la vie, compare-toi. La comparaison, c'est le générateur de frustration par excellence. Et avec les réseaux sociaux, c'est comme ça a pris une autre ampleur parce que on voit la vie des autres, puis on a l'impression que leur vie est parfaite, puis on regarde à notre vie, puis on arrive à un point où c'est tellement malsain qu'on n'arrive même plus à se réjouir du succès des autres parce que des fois, on a l'impression que ça renvoie à notre propre échec, aux propres choses qui nous manquent dans la vie. Pourtant, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit en Romains 12, 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » On va parler vrai ce matin. Est-ce que ça serait pas plus facile généralement de faire l'inverse? De se réjouir lorsque les autres pleurent? Parce que ça me fait dire, OK, ma vie, elle est pas si mauvaise que ça. Puis lorsque les autres se réjouissent, on se met à pleurer parce qu'on est jaloux. C'est comme on a inversé les choses. Moi, je sais que un de mes frères, justement, est un joueur professionnel de soccer en Europe. Ce qui fait que lui, il a des vacances super longues. Il a un mois de vie de vacances chaque été. Et vu que lui, c'est un joueur professionnel de soccer et que moi, je suis un pasteur, il a un salaire juste un peu plus élevé que le mien. Juste un peu plus, pas de beaucoup, mais c'est quand même significatif. Ce qui fait que ses vacances et les miennes, c'est pas la même game. C'est pas du tout pareil. Puis l'été dernier, il a fait un voyage à Dubaï. Puis quand tu vas à Dubaï, il faut que tu le mettes sur Instagram. Sinon, ton voyage, il est pas valide, on dirait. T'as pas vraiment voyagé, il faut des preuves. Applaudissez pas ça, s'il vous plaît. Il y en a qui sont allés à Dubaï dans la salle, on dirait. Puis là, il arrive, il poste ça sur Instagram, son voyage à Dubaï, incroyable tout ça. Puis j'aimerais vous dire que ma première réaction naturelle, c'était de dire « Oh, je suis tellement content pour lui. Ah, oh, je l'aime mon frère là, il a tellement travaillé dur cette année, il le mérite son voyage. » J'aimerais vous dire, ça a été ma réaction naturelle. Mais ma première réaction, ça a été de dire « Lui, il est à Dubaï, moi je suis à Longueuil sur chemin Chambly en ce moment. » C'est comme j'ai l'impression que lui, il a gagné, moi j'ai perdu. La comparaison est un générateur de frustration. Mais alors qu'on continue dans les évangiles, on retrouve Pierre qui justement avait posé la question à Jésus, qui l'avait poussé à raconter cette parabole-là. On retrouve Pierre qui parle à Jésus, et c'est juste après la résurrection de Jésus. Et ils discutent, et vous savez, Jésus connaît tout sur tout. Il n'y a pas une seule chose qu'il ne connaît pas. Et il arrive vers Pierre, puis lui dit, tu sais Pierre, je vais t'annoncer quelque chose, c'est que toi tu vas mourir d'une mort assez violente, tu vas mourir jeune sous la persécution à cause de mon nom. Puis là, Pierre, face à cette nouvelle, sa première réaction c'est de regarder à droite, à gauche, puis là il voit Jean. Il dit, puis Jean, il va lui arriver quoi à lui? C'est comme quand tu viens de couler un examen et tu veux savoir si t'es pas tout seul. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Et là, Jésus donne une réponse dont lui seul a le secret, rempli d'amour et de compassion. Il lui dit ceci, « Cela te regarde-t-il? Toi, suis-moi. » Je suis sûr que Pierre se serait attendu un peu plus de compassion de la part de Jésus. Tu viens quand même de lui annoncer qu'il va mourir d'une mort persécutée à cause de toi en plus. Mais... Puis en plus, je pense vraiment que Pierre n'était pas mal intentionné. Il voulait juste savoir qu'est-ce qui va arriver à Jean. Il l'aime, c'est son disciple. Mais ce que la réponse de Jésus nous enseigne, c'est réellement que... Il pose la question, en fait. Est-ce que le fait de savoir si Jean va me suivre jusqu'au bout, s'il va m'abandonner, s'il va vivre vieux ou s'il va mourir jeune, est-ce que le fait de savoir ça, ça va changer la manière dont tu vas me suivre? Est-ce que ça va changer la manière dont tu vas te comporter? Jésus, par cette réponse, nous fait comprendre que ce qui doit déterminer la manière dont on vit, ce n'est pas les autres, ce n'est pas leur échec, leur succès, la culture. Ce qui doit déterminer notre prise de décision, notre comportement, c'est sa volonté pour notre vie. C'est sa volonté pour notre vie. Parce que lorsqu'on va paraître devant Dieu, Dieu ne va pas nous demander des comptes sur la vie du voisin. Il va nous demander des comptes sur notre propre vie à nous, juste sur la nôtre. Et Dieu nous a créés d'une manière unique, avec des personnalités, des dons, des talents uniques. Ce qui fait que des critères de réussite sont uniques également. Tu ne peux pas te comparer à ton voisin parce qu'il n'a pas les mêmes critères de réussite. C'est comme si un sprinteur de 100 mètres compare son temps avec un conducteur de Formule 1. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans la même catégorie, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes règles. De la même manière, des fois, on se compare à des gens, mais ce n'est pas la même catégorie. Vous partez pas du même endroit, ce n'est même pas les mêmes choses que Dieu vous appelle à accomplir. Puis on est frustré parce qu'on a l'impression que lui, il est plus en avance. Et puis à chaque fois qu'on se compare, on s'éloigne de plus en plus de la personne que Dieu nous appelle à être. Parce qu'il arrive toujours deux choses. Soit on se compare à des personnes qui sont plus avancées que nous, et là on est rempli de honte, de culpabilité, de « j'ai l'impression que j'accomplis rien, j'ai l'impression que je vaux rien, que je sers à rien ». Soit on se compare à des gens qui sont rendus moins loin que nous, et là on bombe le torse. On se dit « ah ouais, je suis pas si mal que ça ». Mais dans les deux cas, on fait fausse route. Parce que l'appel, la destinée de ton voisin n'est pas moins bien, elle n'est pas meilleure, elle est juste différente. Et tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas cette vérité-là, on sera incapable de se réjouir pour le succès et l'avancée des autres. Est-ce que je peux entendre un amen? On a besoin de réaliser que Dieu nous a donné une place unique et qu'on n'a pas à regarder à droite, à gauche, on a juste à regarder à lui, à ce qu'il nous appelle à accomplir. Ce qui m'amène à mon deuxième point et ma deuxième attitude qui bien souvent génère de la frustration chez nous, c'est les mauvaises attentes. S'attendre à ce que Dieu fasse des choses qu'il a jamais promis qu'il allait accomplir. C'était le cas des ouvriers dans la parabole. Les ouvriers sont engagés pour une pièce d'argent, puis c'est clair, c'est explicite. Sauf que lorsqu'ils voient les gens qui ont travaillé juste une heure, deux heures à te payer une pièce d'argent, là, ils commencent à discuter entre eux, puis ils commencent à triper. Ils commencent à se faire des scénarios, ils commencent à se faire des films, à dire « Ok, je sais qu'il avait dit qu'on allait payer une pièce d'argent, mais regarde lui, il a été embauché, il a travaillé juste une heure, puis il a été payé une pièce. C'est sûr qu'il va nous donner plus. Toi, tu penses qu'il va nous donner combien ? Deux pièces, trois pièces. Quoi ? Moi, je pense au moins sept pièces. On est là depuis le début, là, il y a de la chaleur, tout ça. » Ils commencent à se faire des scénarios basés sur rien et ils finissent frustrés. Pourquoi ? Parce que leurs attentes étaient basées sur leur logique humaine au lieu d'être basée sur la parole de l'employeur. Et bien souvent, lorsqu'on est frustré contre Dieu, qu'on est frustré dans la vie, c'est que nos attentes ne sont pas basées sur la parole de Dieu, mais sur la culture, sur notre logique, sur comment on pense, nous, sur notre rationalité à nous. Dieu nous appelle à baser notre foi sur la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est ferme, c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer en cas d'espoir, en cas de foi. Puis Jésus a été explicite avec nous dès le début, hein, comme dans la parabole. Jésus nous a jamais promis que du moment qu'on mettait notre foi en lui, qu'on choisissait de lui faire confiance, de marcher avec lui, tout irait bien puis on n'aurait pas de problème. En fait, comme dans la parabole, il a été explicite. Avant de retourner au Père, il a laissé quelques versets, quelques enseignements à ses disciples et il leur dira ceci. « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. » La parole de Dieu est claire dessus. La vraie foi, ce n'est pas de croire que tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, va s'accomplir. Ça, à un certain point, on peut appeler ça de la folie. De dire « parce que je le veux, bah, c'est sûr que ça va s'accomplir. Si je le désire, bah, hop, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. » Mais ce qui différencie la folie de la foi, c'est que la foi, contrairement à la folie, elle est basée sur les promesses de Dieu. Sur des choses qu'il a promis, que le créateur de l'univers, qui ne faillit jamais à ses promesses, c'est ça, tu peux t'appuyer dessus. Et Dieu nous en a fait des belles, des promesses. Il a dit en Romains 8, 28, qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Que ici, dans cette salle, peut-être que tu passes par des moments difficiles en ce moment. Si tu t'accroches à Dieu, il est capable de faire sortir des pires tragédies de ta vie, quelque chose de glorieux, quelque chose de beau. En Hébreux 13, 5, il nous dit ceci, que nous combattrons jamais seuls. Peut-être que tu as l'impression d'être seul dans ce lieu en ce moment, tu as l'impression de vivre une solitude incroyable. J'aimerais te dire que le Créateur de l'univers a les yeux rivés sur toi. Et même si tu te sens seul, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin? Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, il combat pour toi. Matthieu 8, 20, il nous a dit qu'il ne nous abandonnera jamais, que rien ni personne ne peut nous séparer de son amour. Qu'un jour, tous ses enfants célébreront avec lui dans sa présence pour toujours. Tout ça, c'est des promesses sur lesquelles on peut s'appuyer. Puis comprenez-moi bien, c'est pas mauvais d'avoir des rêves, des aspirations. C'est même positif, c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous drive, qui nous donne la motivation d'avancer. Développer une attitude de reconnaissance, ce n'est pas arrêter de rêver, de dire « bah, je vais me contenter de ce que j'ai, puis je suis content, puis même tomber dans une certaine forme de médiocrité. » Non, non, non. Développer une attitude de reconnaissance, c'est choisir de ne pas laisser le manque voler notre joie. De dire « Seigneur, j'aspire à me rendre à cette place-là, j'aspire à avoir telle relation, j'aspire à avoir tel poste, telle influence. Mais pendant ce temps que je vais l'avoir, même si je ne l'ai pas encore, je vais choisir d'être dans la joie. Et tu sais quoi? Même si je l'ai jamais, même si j'ai jamais ce poste-là, même si j'ai jamais cette bénédiction-là dans ma vie, je sais que je vais être correct parce que ma joie, elle est en toi et je sais que tu me suffis. Ça, c'est réellement développer une attitude de reconnaissance. C'est ne pas mettre notre espoir dans des choses qui ne peuvent pas combler. Il y a quelques années, l'acteur Jim Carrey, qui est un acteur international, qui a gagné un grand nombre de catégories de prix comme acteur millionnaire, une légende dans son domaine. Il a accompli tous ses rêves, il s'est marié, il a été une légende dans son domaine. Il a surpris tout le monde en passant par une dépression. Il est passé par une dépression, par des moments vraiment sombres, et puis il s'est fait accompagner par une équipe de psychologues. Il y a eu également un accompagnement spirituel. Et à un moment donné, lorsqu'il est un peu plus sorti de cette période sombre, il a déclaré quelque chose qui a surpris tout le monde et qui est une phrase qui, pour moi, reste gravée dans ma mémoire. Il a dit ceci. « J'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce dont il rêve, de sorte que tous comprennent que ce n'est pas la réponse. » Ce qu'il dit, c'est littéralement, j'aimerais que tous ceux qui sont dans la salle en ce moment-là, vous puissiez accomplir tous vos rêves, peut-être même accomplir même des choses pour lesquelles vous êtes frustrés contre Dieu parce qu'il ne vous les a pas encore données. J'aimerais que vous puissiez tous les accomplir et les avoir et les obtenir pour que vous puissiez réaliser que toutes ces choses-là, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui satisfait. Et bien souvent, on est frustré contre Dieu. Quand on est frustré contre Dieu, le vrai problème, ce n'est pas que Dieu est injuste envers nous, mais c'est qu'on a mis notre espoir et notre joie à la mauvaise place. Et parce qu'on l'a mis à la mauvaise place, on juge la bonté de Dieu selon les mauvais critères. Et parce qu'on les juge selon les mauvais critères, on se met à douter de son amour envers nous. On se met à douter de sa bonté envers nous. De dire, Seigneur, ma situation financière ne décolle pas. Est-ce que tu m'aimes réellement? Seigneur, ça fait des années que je suis célibataire. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, cette promotion, j'avais vraiment à cœur de l'avoir. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que notre espoir et notre joie est à la mauvaise place, on en vient à être frustré contre Dieu. Au début du message, je vous ai parlé, je vous ai lu plusieurs passages et je vous ai parlé d'un homme qui s'appelle Asaph. D'un homme qui s'appelle Asaph, qui composait des chants et qui, face à l'épreuve, face à la difficulté, a commencé à s'énerver. S'énerver contre Dieu, a commencé à se fatiguer de dire, ah, Seigneur, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai l'impression que la vie des autres va mieux que la mienne, alors qu'eux, ils ont même pas de relation avec toi, alors qu'eux, ils essayent même pas de te suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on continue à lire ce texte-là, on lit ce qui continue à exprimer à Dieu, on le voit au fur et à mesure reprendre ses esprits. Et regardez la manière dont il termine ce psaume. « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Il a réalisé que ce qu'il y avait de meilleur encore que les bénédictions que Dieu pouvait lui donner, c'était le Dieu des bénédictions lui-même. C'était mieux encore que les réponses à mes prières, les choses que tu peux me donner, mes rêves que tu peux accomplir. Ce qui est encore de mieux que ça, c'est ta présence dans ma vie. Et lorsque tu réalises qu'en la personne de Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin, les motivations de ton obéissance changent. Les motivations de ton service changent. Tu n'obéis plus pour juste obtenir quelque chose de plus. Tu ne fais plus des sacrifices, des services pour Dieu pour obtenir quelque chose de plus parce que tu réalises qu'en Jésus, tu as déjà tout. C'est motivé par la reconnaissance et par l'amour de dire « Seigneur, tu as tout donné pour moi, puis aujourd'hui, c'est mon privilège, c'est ma joie de tout donner pour toi. » Et c'est seulement avec ce mindset-là que tu peux déclarer, comme dans 1 Jean 5:3, que les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, c'est un privilège pour moi. Moi, ça me fait penser à un ami à moi qui a vraiment le langage d'amour des cadeaux. Vous savez, il y a quelques années, Gary Chapman a révolutionné le monde de l'amour en disant qu'il existe 5 langages d'amour. Le toucher, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les services. Et vraiment, il a révolutionné ça. Puis lui, son langage d'amour, un ami à moi, c'est vraiment les cadeaux. Offrir des cadeaux. C'est le genre de personne qui doit se retenir avant même d'offrir un cadeau avant le 25 décembre. C'est à ce point-là. Et pour lui, faire les magasins pendant les soldes un 22, 23 décembre dans la slush alors qu'il fait froid, il y a des files interminables, il y a tout le monde qui se pousse. Pour lui, faire tout ça, c'est pas une corvée. C'est un privilège. Il aime ça, il est content de le faire parce que lui, sa récompense ultime, c'est de nous voir déballer le cadeau et de voir notre sourire sur le visage lorsqu'on déballe le cadeau. Sa récompense à lui, c'est pas de dire oh, peut-être que dès qu'il va déballer le cadeau, il va peut-être me faire une faveur, il va peut-être me donner quelque chose en retour. Non, lui, il dit moi la seule chose que je veux, c'est de faire plaisir. La seule chose que je veux, moi ma récompense là, c'est quand tu déballes le cadeau et t'es heureux, moi le sourire sur ton visage, moi je veux rien de plus, c'est ma récompense. C'est à ce type-là d'obéissance et de service et de motivation que Dieu nous appelle, de dire ah, Seigneur. Moi, je vis pour toi, je fais sacrifice sur sacrifice. Et ma récompense, là, c'est pas que tu répondes à mes prières. Ma récompense, c'est pas que tu me donnes des bénédictions. Ma récompense, là, c'est juste ton sourire sur ma vie. De dire, eh, Seigneur, t'as tout donné pour moi. Juste le fait de t'obéir et de te satisfaire, ça, c'est ma récompense ultime. De dire, moi, je prends plaisir à honorer mon Dieu. Celui qui a tout donné pour moi, moi, je vais tout donner pour lui. J'aimerais vous laisser avec une dernière citation qui dit ceci. Nous commençons en général notre cheminement vers Dieu en pensant « Que dois-je faire pour obtenir ceci ou cela de lui ?» Mais il arrive pourtant un moment où nous devons nous mettre à penser « Que dois-je faire pour l'obtenir lui ?» Nouvelle vie, j'aimerais vous encourager à venir à la présence de Dieu et ne pas chercher juste les bénédictions de Dieu, mais chercher le Dieu des bénédictions lui-même. Parce qu'il n'y a rien qui surpasse ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? D'aller dans la présence de Dieu, de passer un temps de louange et de dire « Seigneur, je viens dans ta présence là, mais je veux rien te demander. Je veux juste être là et t'adorer. Juste te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton pardon. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que, même si moi je suis pas toujours fidèle, toi t'es toujours fidèle. Merci de ce que tu pourvois à tous mes besoins. Tu pourvois pas forcément à toutes mes envies, mais tu pourvois à tous mes besoins. Merci Seigneur d'arriver dans la présence de Dieu et de dire Seigneur, je suis juste bien. Je suis juste bien dans ta présence. Je suis juste bien d'être avec toi. Dieu nous appelle à développer une attitude de reconnaissance. J'aimerais vous inviter à pencher la tête. Je vais terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Merci de ce que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes bontés ne, ne sont pas épuisés et tu les renouvelles à chaque matin. Seigneur Dieu, ce matin, en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que ton corps, on veut se concentrer beaucoup plus sur ce que toi, tu as accompli pour nous que sur ce que nous accomplissons pour toi. Seigneur Dieu, viens changer notre mindset, Seigneur Dieu. Je te prie ici pour des couples en ce moment qui passent par des moments difficiles. Viens restaurer des relations. Viens restaurer des relations où peut-être qu'ils puissent arrêter de regarder aux défauts de l'autre puis qu'ils puissent recommencer à regarder les qualités. Qu'ils puissent arrêter de regarder à ce qui manque puis qu'ils puissent se réjouir pour ce qu'ils ont. Seigneur, je te prie pour toute l'Église, pour nous tous, Seigneur Dieu. On a besoin d'être renouvelé par toi, de recommencer peut-être pour certains à voir le ministère, le fait de servir, le fait de faire des sacrifices comme un privilège. Seigneur, tu viens nous remplir de ton esprit, de ton amour, de ta force. Je te prie pour toutes les personnes qui passent par un moment difficile. Viens changer leur perspective face à leur épreuve. Viens leur donner la foi et l'espoir de dire hey, si je suis enfant de Dieu, je n'ai rien à craindre. Si Dieu est avec moi, qui est contre moi? Et même s'il m'arrive des choses difficiles en ce moment, je sais que par la grâce de Dieu, tout concourt à mon bien. Merci d'avance pour ce que tu vas accomplir dans cette salle, pour toutes les personnes qui sont dans cette salle. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et tout le monde dit Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner une ovation à ce Dieu de gloire et de grâce? Je vais vous inviter à vous lever. Je vous invite à vous lever, puis on va prendre ce chant comme une prière, puis qu'en tant qu'Église, on puisse venir et peut-être faire quelque chose de différent ce matin. De venir dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, je ne veux rien demander. Je veux juste venir dans ta présence et te dire merci. Merci pour la croix, merci pour ton pardon, merci pour ton amour. On va prendre ce chant qui dit tel un encre, qui parle et qui met en avant l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix que Jésus a accomplie pour nous. Qu'on puisse fermer les yeux, qu'on puisse pas regarder à droite, à gauche, que réellement on puisse avoir prendre ce rendez-vous avec Dieu, de dire Seigneur, tu m'attendais dans ta présence ce matin et je vais t'offrir ce chant comme une prière. Alléluia, chantons ensemble.